Bonjour, bonjour et bienvenue dans Histoire de savoir sur Radio Campus. Bienvenue dans Europolis, Thomas Guessonix au micro. Ce que les consultations citoyennes et le jet de soupe sur la Joconde ont en commun, c'est le sujet du jour. Les manifestations et actions de désobéissance civile pour le climat sont de plus en plus durement réprimées et souvent perçues comme incompatibles avec les consultations publiques, le mode classique de participation aux décisions environnementales. Pourtant, les deux relèvent du même édifice juridique environnemental. Chiara Armeni, professeure de droit de l'environnement à l'Université libre de Bruxelles, détaille son analyse suite à un article publié dans The Conversation sous le titre « Ce que les consultations citoyennes et le jet de soupe sur la Joconde ont en commun », un titre énigmatique qu'elle nous explique dans un tout petit instant. Chiara Armeni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en studio aujourd'hui pour nous parler de droit de l'environnement. Vous êtes professeur de droit de l'environnement à l'Université libre de Bruxelles et vous avez publié récemment dans le magazine de vulgarisation en ligne The Conversation un article au titre énigmatique « Ce que les consultations citoyennes et le jet de soupe sur la Joconde ont en commun ». Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant, Chiara Armeni. En gros, vous traitez du droit de l'environnement, des manifestations et des actions pour le climat qui ont un peu moins le vent en poupe aujourd'hui, il faut bien le dire, étant donné la concurrence d'autres sujets sur la sphère internationale. Mais vous dites quand même d'entrée de jeu, les manifestations et actions de désobéissance civile pour le climat sont de plus en plus réprimées et souvent perçues comme incompatibles avec les consultations publiques, le modèle classique de participation aux décisions environnementales. Et pourtant, dites-vous, les deux relèvent du même édifice juridique environnemental.
Oui, bonjour. Merci pour l'invitation aujourd'hui. Je m'intéresse à la participation du public à la prise de décision depuis quelques années déjà. Et traditionnellement, dans le milieu du droit de l'environnement, ce qu'on entend par participation du public, c'est vraiment une participation en lien avec l'institution, c'est-à-dire dans un édifice juridique qui est encadré par le droit. Mmh. Par exemple, imaginez qu'un projet routier puisse se développer à côté de chez vous, vous aurez un droit de participation à la prise de décision, c'est-à-dire le droit vous confie un droit à être consulté.
Une enquête publique ?
Une enquête publique ou à travers des autres formes qui sont liées plutôt à les spécificités du contexte juridique.
D'accord.
Donc dans ces cadres, on parle plutôt de la participation classique. Le public consulté qui peut exprimer son opinion par rapport à des décisions liées à l'environnement, que ce soit des décisions liées à un parc éolien, que ce soit des décisions qui touchent à la biodiversité dans votre quartier ou dans votre ville.
D'accord, ou un aéroport par exemple.
Un aéroport par exemple. Et donc ces types de participation, c'est ce qu'on appelle la participation plutôt institutionnalisée ou classique.
Mmh.
Notre argument dans ce travail, c'est de dire, en fait, les juristes de l'environnement se sont toujours concentrés sur cet aspect, ou plutôt surtout intéressés à cet aspect, très encadrés par les droits. Mais on voit de plus en plus des pratiques de participation démocratique au-delà de l'institution, c'est-à-dire des manifestations pour le climat, ou bien des pratiques de désobéissance civile liées à des questions environnementales, des questions climatiques, par exemple. Et nos publics le saura certainement, on le voit dans la presse, on le voit de plus en plus réprimé par les États. Et c'est là que ce travail qu'on a fait avec ma collègue Maria Lee de l'University College London au Royaume-Uni nous a mené à regarder ces pratiques qui sont à la fois encadrées et réprimées par le droit, mais qui sont aussi un travail de recherche très important de collègues politologues, par exemple.
Et vous constatez qu'il y a à Arménie une grande évolution depuis quelques années dans la manière dont s'est constituée effectivement la possibilité pour le grand public de prendre la parole, d'avoir un avis sur la question.
Alors, depuis quelques années, depuis surtout 2019, avec le mouvement Friday for Future, avec le travail de Greta Thunberg, par exemple, on a vu d'un côté de plus en plus d'activisme de rue, si vous voulez, de manifestations pour le climat, qui sont à la fois des manifestations qui sont pacifiques, qui ont impliqué un public très large,
des
familles, des marches, de manifestations plutôt aussi classiques. Mais à côté de ça, on voit de plus en plus des actes de désobéissance civile organisés par des mouvements sociaux, des organisations qui se sont constituées parfois avec ce but primaire de contester les politiques étatiques, de contester de façon plus large certains types de sociétés.
Extinction Rebellion, par exemple.
Oui, Extinction Rebellion, Code Rouge, par exemple, et l'ère affiliés internationaux. Ce sont des mouvements transnationaux qui sont très liés, qui sont très en contact l'un l'autre, qui sont aussi en contact avec des organisations qui mènent des autres formes de contestation, par exemple, avec un contentieux stratégique mené devant les cours et tribunaux. Donc il y a de plus en plus de formes de participation, nous disons, qui sont des formes de participation en dehors de l'institution et que nous appelons des formes non invitées ou interdites. Et dans ces cadres, nous utilisons une sorte de cadre développé par un sociologue, Brian Wynne,
que vous citiez dans l'article.
Que nous citions et nous essayons de l'enrichir un peu. C'est un cadre qu'il a déjà développé depuis quelques années, avec cette catégorie que nous appelons la participation interdite. Mmh. Et là, nous nous référons surtout à la participation à travers la désobéissance civile et surtout le côté lié à la réponse juridique, qui est de plus en plus une réponse de répression. Cette répression, nous ne sommes pas les premiers à la citer. Des organismes internationaux ont bien fait référence à un cadre un peu inquiétant de répression de cette forme de participation. La question de la violence est une question que je mettrai d'à côté parce que c'est compliqué quand on parle de mouvements sociaux et de mouvements de désobéissance civile. Mais on constate que de plus en plus, il y a des sanctions pénales très sévères, surtout dans notre cadre d'études en Angleterre.
Oui, il y a le cas très exemplatif de Greenpeace, par exemple, qui a subi des astreintes dépassant toutes ses capacités financières.
Exactement, très fortes. On a aussi des individus qui sont... Oui. Qui sont condamnés à des temps de prison assez lourds, des sanctions très lourdes. Donc, ce qu'on a remarqué, pour revenir à votre question, est-ce qu'il y a un changement ? Ce qu'on a remarqué, c'est
Est-ce qu'il y a une évolution ?
On a remarqué trois types de changements. Un changement lié à des réformes législatives, et ça partout en Europe. On a des réformes législatives qui sanctionnent et qui considèrent ces pratiques, qui criminalisent ces pratiques de façon très explicite. Et ça, on le voit en Italie, en Espagne, en France. Il y a des cas en France très clairs. Le deuxième type d'évolution est une évolution dans les pratiques policières, c'est-à-dire la gestion des manifestations dans la gestion des manifestants, le contrôle qu'on exerce. On a des formes de surveillance fortes de ces mouvements. Et la troisième, c'est la pratique de sanctions qu'on voit par le juge.
Et ça, c'est une tendance qu'on peut observer dans pas mal de pays sur un plan international. Vous citiez le cas de la France il y a un instant, qui est à Arménie. Je pense, par exemple, à cette histoire d'autoroute où il y a eu beaucoup d'activistes.
Oui.
Mais et en Belgique, est-ce que c'est le cas aussi?
En Belgique, c'est similaire, c'est moins fort, c'est similaire. Mais de façon générale, en Europe, on a remarqué, et on a des cas très documentés, de cette tendance qui vient de loin. Les États ont tendance, dans des situations de conflit, à sécuritiser. Et donc, on a cette tendance de contrôle.
Ça veut dire envoyer les forces de l'ordre.
Oui, de essayer de gérer l'ordre public, d'utiliser la force de l'ordre public, à la fois dans des pratiques de manifestation, mais aussi dans les cadres de l'utilisation de la modification de la loi sur le droit, l'ordre public, comme on a vu en Angleterre, par exemple. En Italie, c'est intéressant parce que quand on a parlé, et le titre de notre article se réfère aussi à l'utilisation de pratiques de contestation contre l'œuvre d'art, par exemple. En Italie, ils ont touché ces types de pratiques en imposant de conditions plus restrictive si un acte de manifestation touche aux œuvres d'art.
D'accord.
Comme si c'était...
Sacré.
Comme si c'était objectif. Mmh. Et en fait, on sait très bien que c'est exactement ce type de pratique par précisément les mouvements environnementaux qui sera impliqué. Et je trouve ça très intéressant parce que finalement, ce qu'on touche, c'est le répertoire de modes d'action des mouvements sociaux et des organisations, de groupes, plus ou moins organisés. Hein. Les mouvements sociaux, par définition, sont moins organisés, plus connectés en réseau, moins hiérarchiques. Donc, c'est difficile à localiser. Mais de façon générale, c'est la pratique qui a sanctionné. Et après, il faut dire que notre article ne touche pas qu'à ces côtés de la pratique. Notre argument, c'est de dire, attention, les juristes de l'environnement, c'est un article académique, donc nous, on parle en tant que notre pratique. On s'est beaucoup intéressé pendant beaucoup d'années à la participation démocratique. Et là, on constate qu'en fait, cette participation va au-delà de ce qu'on a étudié pendant longtemps. Et donc, on essaye de trouver une image, et je reviens à votre question sur l'édifice juridique. Pour écrire un article de diffusion, on a beaucoup réfléchi à l'image qu'on voudrait donner à notre article. Et ce qui nous est paré pertinent, c'est l'image de l'enfilade. Donc, les collègues et le public belge sera sûrement identifié à cette idée du salon en enfilade, où normalement on a trois chambres. Ces chambres sont séparées mais sont liées par une axe de porte. Et donc le jeu du droit, c'est de décider si laisser la porte ouverte ou pas. Et donc on a imaginé la participation comme un salon en enfilade, où la première salle est la salle de la participation invitée, pour reprendre cette terminologie, cette idée de Brian Wynne.
C'est-à-dire tout à fait légal.
Légal, mais aussi encouragé. Le pouvoir public a besoin de la participation des citoyens, d'un côté pour légitimer les décisions. Il y a un pouvoir de légitimation des décisions, légitimation démocratique du résultat, mais aussi pour avoir des informations. Le public est détenteur d'une information expérientielle pour permettre au public d'accepter la décision. Si on est impliqué dans la décision, on a tendance à l'accepter ou se sentir plus acteur de cette décision et de son implémentation. Et donc, la participation invitée est à la fois un droit, mais aussi une nécessité du système juridique pour pouvoir permettre de bonnes décisions. Mais la deuxième salle, c'est la salle de la, du droit d'expression, du droit de protester, du droit à exprimer
une opinion
contraire. Mmh. C'est un droit que le système juridique n'encourage pas en tant que tel, n'a pas nécessairement besoin qu'on soit dans la rue, dans une marche, mais le droit le protège.
Par la Convention d'Aarhus ?
La Convention européenne de droits de l'homme, par exemple, l'article 10 et 11, le protège. La Convention d'Aarhus, c'est une convention internationale dédiée à l'accès à l'information, la participation du public et à l'accès à la justice. Et c'est cette convention qui est appliquée en Europe et par les États membres, s'applique plutôt à la première salle.
D'accord.
La première salle est la salle de droits procéduraux. Donc, en tant que juriste, on l'appelle les droits procéduraux, c'est-à-dire le droit à avoir accès à la procédure décisionnelle.
Voilà, c'est la première salle, la salle des invités, pour reprendre la terminologie que vous attribuez à ce sociologue dont vous parliez tout à l'heure, Brian, je pense
Brian Wynne.
Brian Wynne. Et bien, la deuxième, c'est non invité, alors ?
C'est non invité, mais tout à fait légal. Non invité, mais protégé. Non invité, mais encadré. La Convention des droits de l'homme, mais encadré par les droits. L'article 10 et 11 protègent les droits d'expression et les droits d'association. Donc, on est dans un contexte où la porte est ouverte. On n'invite pas nécessairement à exercer ses droits parce que c'est un droit dont le pouvoir public reconnaît l'importance, mais les informations et la contribution est moins directe aux décisions que dans la première salle, mais c'est une salle où la participation est encadrée par le droit. La question qui nous intéresse dans cet article, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui se passe dans la troisième salle.
C'est ça, parce que je vous rappelle cette analogie des pièces en enfilade, hein, que effectivement les appartements bruxellois ont pas mal pratiqué. Et puis vous faites aussi allusion à un salon parisien du XVIIIe siècle. Ça, vous nous expliquerez un peu pourquoi il y a cette analogie là aussi. Et donc il y a cette troisième pièce où c'est plus compliqué.
A priori, il n'y a pas question de pénétrer, sauf que quand on voit que l'espace civique d'expression de la participation dans les premières deux salles commence à être réduit, évidemment, les invités auront tendance à vouloir occuper la troisième salle.
Forcer la porte.
Mmh. Et c'est là, cette analogie, ça nous paraît assez utile pour vous dire qu'en fait, en principe, les trois salles sont en lien. Mais
vous parlez de continuum.
C'est un continuum, c'est une sorte de spectrum de liens. On peut aussi revenir de la deuxième salle à la première. Parfois, par exemple, si vous prenez Extinction Rebellion, par exemple, ce qu'il demande, c'est à la fois une action forte des États, mais aussi la possibilité d'avoir une assemblée citoyenne. Et alors, quand un mouvement demande une assemblée citoyenne, évidemment, on reconnaît l'importance de l'institution, donc, et reconnaît l'importance d'avoir des formes de participation qui sont novatrices, mais en même temps, dans un cadre institutionnel. Donc, ce n'est pas une direction univoque. On peut revenir en arrière. Il y a un passage de la première à la deuxième. Il y a des mouvements qui ont décidé d'abandonner certaines pratiques de contestation, de désobéissance civile, pour revenir dans des pratiques moins contestées, moins opposantes. Et donc, c'est vraiment ce type de mouvements à travers les salles qui nous semble effectivement refléter la réalité de la participation et comment la participation est flexible et est interprétée dans plusieurs formes à travers plusieurs pratiques aujourd'hui.
Souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillis.
se mouillait mollement. La glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre à rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Et alors, cette participation non invitée, hein, savoir la protestation, en gros, pour faire simple, Chiara Armini, c'est une réalité aujourd'hui qu'on constate encore, mais on a l'impression, ceci dit, que les mouvements et les mobilisations, les actions d'envergure pour le climat sont un peu moins importantes qu'il y a quelques années. Vous parliez de 2019 tout à l'heure, dû sans doute au contexte international, mais sans doute aussi aux pressions qui sont exercées.
Alors, ça, c'est une très bonne réflexion. L'environnement, de façon générale, est toujours à risque de devenir un peu... d'être mis en deuxième plan par rapport à des urgences économiques, par rapport à des solutions plutôt de... Aujourd'hui, on parle beaucoup de concurrence, que l'Europe soit concurrent, reste intéressant sur le marché international.
Oui, ça par rapport à d'autres pays qui ne respectent pas les mêmes normes.
Oui, par exemple. Et donc, l'environnement est risque toujours d'être remis en deuxième... en deuxième position. Et donc ça, c'est pas du tout nouveau. Les urgences, les priorités internationales ou politiques donnent toujours un peu de du mal aux juristes de l'environnement. Mais cela dit, ça reste un point important. Ce que nous constatons, par contre, c'est qu'on a toujours des pressions qui viennent de l'extérieur. La démocratie en général, de façon générale, mais aussi la démocratie climatique, par exemple, est toujours remise en question par les mêmes mouvements, parfois. Les mouvements populistes qui disent, en fait, on n'a pas le temps pour la démocratie. Même quand on a des positions très radicales au niveau climatique, on demande des actions immédiates, des actions très tangibles. Et la démocratie, évidemment, a besoin de temps, a besoin d'une ouverture large, d'une capacité de recevoir les positions, de savoir balancer les positions, de savoir donner des réponses, même quand les positions ne sont pas prises en compte dans la décision finale. Donc évidemment, quand on appelle la démocratie, il faut prendre en compte les délais de la démocratie. Et si on est dans le quantifié, si on est dans l'intérêt des cibles, évidemment, la démocratie, dans une urgence climatique, commence un peu à être remise en cause. Et ce qui nous paraît important dans cet article, c'est de dire d'abord que la démocratie n'est pas une seule forme. On peut interpréter la démocratie environnementale et climatique à travers ses multiples formes et réalisations. Deuxième, que le droit la protège, mais qui peut aussi constituer un risque pour cette forme de participation quand les États interprètent le rôle du droit comme un rôle répressif. Et troisièmement, que pour des solutions climatiques, pour avancer l'agenda de la transition socio-écologique, nous avons besoin de cette forme de démocratie. Donc le droit doit de plus en plus se poser comme, considérer comme un outil de protection de cette forme démocratique.
Oui, mais on est confronté à des populismes de tous bords qui ne facilitent pas la tâche. Hein. Vous dites les droits et les protections procédurales nécessaires à la participation sur invitation sont remis en cause par des mouvements populistes situés aux deux extrémités du spectre politique qui pensent déjà connaître la bonne réponse.
Oui, les populismes, si on utilise les travaux de collègues qui ont bien étudié les mouvements populistes, en fait, il y a un lien entre le populisme de gauche et de droite. Et ces liens reposent sur la réponse technique. La technocratie comme solution à des urgences, y compris des urgences climatiques. Donc, quand j'ai dit qu'ils considèrent de connaître déjà la réponse, les mouvements populistes se considèrent porteurs de la voix du peuple. Okay? Donc, de façon générale, je simplifie un peu parce que ce n'est pas vraiment les centres de mon sujet de recherche, mais en même temps, nous ne pouvons pas faire abstraction de ce type de position. Et donc, le mouvement populiste qui se fait porte-parole du peuple, évidemment, pousse cette idée du peuple comme uniforme. Les positions du peuple, du citoyen, sont des positions uniformes. Et donc c'est là que, en fait, l'architecture de la participation tombe, parce que au moment où on s'est fait porteur d'une voix uniforme, que ce soit d'une extrémité ou l'autre du spectre politique, évidemment, les nuances de la participation qui en font la richesse sont perdues. Et donc, on s'appelle à des solutions rapides. On demande aux politiques de donner des solutions quantifiées. On peut obtenir certaines cibles climatiques, mais ce qui est perdu, c'est la nuance et la variété, la richesse de ce débat participatif. Et malheureusement, on voit ces types de risques à la fois, disons, à la gauche ou à la droite, selon nous, dans cet article.
Et quelle est la place des experts, alors ceux qu'on va appeler en dernier recours pour donner un avis qu'on ne pourra pas contester, a priori ?
Alors, la place des experts est fondamentale. Surtout si on considère l'expertise au sens large. Parfois, les experts sont considérés seulement de gens qui maîtrisent les chiffres. Les experts économiques, les scientifiques. Mais les experts sont les experts qui font de la recherche et qui savent diriger la réflexion politique. Ce n'est pas une réponse technique ultime, mais c'est l'aide à la réflexion. En fait, souvent, on l'appelle l'expertise pour le politique, science for policy making. Mais les experts seuls...
Ce qu'on fait parfois à l'Université de Libre de Bruxelles, entre parenthèses.
Absolument. Mm. Mais les experts seuls ne suffit pas. L'expertise en tant que seule ressource... Ça nous fait retomber dans une technocratie, par exemple. Mmh. Et c'est là que l'expertise doit être nécessairement combinée avec la participation. Parce que le public, au sens large, les citoyens, les citoyennes, ont cette expertise, cette connaissance du vécu. Et c'est la combinaison de l'expertise plutôt technique dans le sens large, avec l'expérience, la connaissance du vécu, les problèmes que les citoyennes et citoyennes vivent tous les jours, qui fait que la décision politique, encadrée par les droits, supportée par les droits, peut vraiment arriver à une qualité qui est propre de temps que nous vivons, une qualité complexe, qui prend en compte les différentes facettes du problème et qui ne peut pas être simplifié par le seul expertise technique.
Chiara Arménie, vous parlez de répressions qui vont croissantes par rapport à cette question climatique, mais vous parlez aussi de pratiques intimidantes.
Ah oui, bien sûr. Ça, c'est une partie de la recherche qu'on est en train de développer dans un article, une réflexion successive, disons. Il y a des pratiques intimidantes, par exemple, quand on imagine de grandes entreprises qui sont engagées dans ce qu'on appelle les poursuites Bayon. Des poursuites contre, originairement, ce type de définition était contre le journaliste, par exemple. Oui. Quand les journalistes font des enquêtes qui touchent aux pratiques illégales des organisations ou des entreprises, la réponse est d'attaquer les journalistes. Et donc là, on attaque les organisations à travers des poursuites qui peuvent être très coûteuses pour l'organisation. Et donc, c'est une utilisation d'un pouvoir énorme qui parfois est propre à ces entreprises pour essayer de faire en sorte que cette contestation s'arrête. Et donc, ça a un effet intimidant. Mmh. Ça fait que... Ça a la conséquence de mener une réflexion interne de coûts et de bénéfices des pratiques des organisations non gouvernementales ou de mouvements sociaux qui doivent vraiment calculer l'impact et les risques qui sont rattachés à leurs propres pratiques. Donc, c'est une pratique qu'on voit, par exemple, quand des grandes compagnies pétroliennes se lancent contre les ONG environnementales. On a les cas de Energy Transfer contre Greenpeace. Vous avez évoqué les cas contre Greenpeace. Et c'est vraiment ces types de situations qui ont un effet de congeler un peu l'enthousiasme des mouvements sociaux par rapport aux risques qui voient se concrétiser.
Chiara Armini, je rappelle que vous avez publié dans le magazine de vulgarisation scientifique The Conversation cet article intitulé « Ce que les consultations citoyennes et les jets de soupe sur la Joconde ont en commun », on vient d'en parler. Est-ce que ce genre d'action, comme le jet de soupe sur la Joconde, mais il y en a eu d'autres, hein, bien sûr, assez retentissantes, est-ce que malgré le contexte répressif, elles vont continuer à exister, pensez-vous ?
C'est une très bonne question. On a la trajectoire n'est pas linéaire. On a vu dans l'histoire des nouveaux mouvements sociaux, par exemple, dont le mouvement environnemental fait partie, des moments de pause, des moments de renforcement de ces actions. Mes collègues politologues et sociologues évoqueraient les structures de l'opportunité politique. Ça dépend à quel point un système politique, une structure politique est ouverte à recevoir ces types de input, par exemple. Donc, au niveau technique, ça dépend de type de gouvernement qu'on a, des politiques qu'on voit en place. Donc, on est toujours...
Et
des risques encourus.
Merci beaucoup, Chiara Armini. Je rappelle donc le titre de l'article que vous avez publié en compagnie de Maria Lee, ce que les consultations citoyennes et le jet de soupe sur la Joconde, hein, on s'en souvient, au Musée du Louvre, ont en commun. Merci.
Merci à vous pour l'invitation.
Voilà, vous avez eu l'occasion d'entendre l'avis de Chiara Armini, professeure de droit de l'environnement à l'Université libre de Bruxelles. Elle détaillait son analyse suite à cet article publié dans le magazine de vulgarisation en ligne The Conversation sous le titre « Ce que les consultations citoyennes et le jet de soupe sur la Joconde ont en commun ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Au revoir.